là, j'ai enfin mis une réponse automatique à mes mails. Et j'ai vraiment mis texto, je suis en burn-out. Burn-out. J'ai failli mettre surmenage, hein. J'étais à non, non, non. J'ai vraiment le terme, je suis en burn-out, c'est important, quoi. C'est vraiment, je suis cramée, quoi. Je suis cramée.
J'étais furax.
Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir.
J'ai pris du déroxate pour la dépression.
La vie est quand même tellement...
J'ai pris du Valium.
Les médicaments donnent une sorte d'équilibre.
Je pense que, sérieusement, que je suis conne.
Apathique, agnosique. Y a phasique.
Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
Là, les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé.
On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à longueur de temps et de journée.
Une mini-communauté de deux pour l'instant,
oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne, bien sûr.
Bienvenue dans Les Garde-Fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires, et qui est écoutée aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière.
Deux secondes d'air qui brûle. Derrière ce titre de roman, aux tonalités incendiaires, se cache une autrice, prolifique, que les mots n'ont heureusement pas consumée. Au contraire, ils lui permettent de nous dépeindre avec puissance des moments de joie, d'amitié, d'amour, mais aussi des parcours de vie teintés par la présence de la police, avec son lot de violences et de victimes. Pendant cet entretien, parsemé de lectures de son texte, l'autrice est revenue sur son processus d'écriture et sur la réception de son livre. Puis elle nous a parlé des multiples formes que prenaient les violences policières, que ce soit sur les corps ou sur les porte-monnaies. Enfin, elle nous a expliqué l'impact qu'avait eu et qu'a toujours le travail sur sa santé mentale. Son livre a vu le jour après son premier burn-out, et c'est pendant la publication de celui-ci que son deuxième burn-out s'est déclenché. Nous avons l'immense joie de recevoir Diaty Diallo pour ce 49e épisode des Garde-Fous.
Je m'appelle Diaty Diallo, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Deux secondes d'air qui brûle ». C'est un roman qui est sorti en août 2022 aux éditions du Seuil, Collection, Fiction et Compagnie. C'est un livre qui parle notamment des victimes de violences policières, mais aussi de joie, d'amour, d'amitié et de fête. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'essaie de faire un peu attention aux termes que j'emploie et tout. Et en même temps, je me sens vraiment directement concernée par ce terme de folie, quoi. C'est une question qui relève autant de l'intime que du professionnel, là, par exemple, sur l'exercice d'écrire. Il y a vraiment ce truc où je pense qu'on touche à des moments, à des endroits. Peut-être que tous les auteurs, toutes les autrices diraient pas la même chose. Mais moi, c'est sûr que là, pendant l'écriture de ce livre, j'ai touché les limites de moi-même à certains endroits. Et par ailleurs, j'ai continué d'écrire après, pas des romans, mais des textes de commande, etc. Et en fait, c'est aussi un moyen que j'ai maintenant pour guérir aussi, hein, clairement. J'ai écrit notamment un texte sur une relation d'emprise qui m'a quand même permis de faire un point bilan et justement de pas basculer dans quelque chose de trash, quoi. Enfin, j'étais déjà dans quelque chose de trash, mais pas plus trash que ce que c'était déjà, quoi. Je pense que la folie, ça fait un peu... Je dirais que ça fait partie de ma vie, ouais.
Tu utilises ce mot fou, folle ou pas?
Ouais, je l'utilise, ouais. Mais vraiment, ça dépend avec qui, du coup. Donc c'est peut-être un peu hypocrite et tout, genre... Parce qu'en fait, voilà, j'ai pas envie de blesser les gens, j'ai pas envie de... Parce que voilà, en plus, il y a vraiment différents degrés. Il y a des personnes qui sont internées régulièrement, par exemple, qui sont médicamentées, etc. Donc pour qui ça peut être effectivement des termes qui fâchent, ou alors, ça, au contraire, ça peut être aussi des termes qui libèrent. Mais moi, je l'utilise parce qu'effectivement, je pense qu'à des moments... Je dirais que j'ai des petits soucis avec la réalité, quoi. Enfin, après, c'est vraiment... C'est hyper vaste, quoi. Il y aurait plein de trucs à en dire et tout. Mais ouais, des moments de déréalité. Moi, j'ai fait pas mal de... Je rentre dans le dur du truc. Mais et notamment, d'ailleurs, à la sortie du livre. En fait, je fais des espèces... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça. Des espèces de petites crises de dépersonnalisation qui ont duré quelques minutes, 10 minutes et tout. Souvent, quand je suis très, très stressée. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et pourtant, je suis pas moins stressée. Et en fait, à la sortie du livre, j'étais pas mal dissociée aussi, quoi. Je comprenais pas bien ce qui se passait, quoi. Il y avait un truc où j'avais pas l'impression, et d'ailleurs toujours un peu maintenant aussi, que la personne que je suis, c'est la personne qui a écrit Mais je crois que ça me fait ça. Je crois que c'est l'écriture en général. Parce que là, j'ai écrit un texte pour La Déferlante. Elles ont utilisé une des phrases du texte pour leurs affiches. Et quand j'ai vu la phrase, je me suis dit, bah, ah tiens, c'est marrant, c'est une phrase de Iman, qui est un personnage dans le texte, mais pas du tout. Enfin, pourtant, elle marquait Diatidal en dessous, mais pour moi, c'est vraiment pas une de mes phrases, quoi. Donc il y a un truc comme ça où. Et je suis super sincère hein, quand je dis ça, c'est vraiment pas un effet de manche et tout. C'est vraiment genre. Une fois que c'est sorti, ça appartient à mes personnages, comme s'ils avaient une. Ouais, une réalité. Enfin, ils ont une réalité, mais comme si c'était des personnes réelles, plutôt. En fait, il y a eu un truc, de toutes les façons, avec le roman, où, du coup, il y a une petite galerie de personnages. Et quand j'ai mis le point final, même si c'est... Enfin, c'est une image, parce que le point final, il se rend plusieurs fois, souvent. J'ai eu vraiment de la peine, quoi. J'avais vraiment l'impression de devoir dire adieu à des gens que je reverrais pas, un peu vraiment la fin de la colo, quoi. Peut-être que tu les reverras, peut-être que tu leur enverras des cartes postales ou des lettres au début pendant 6 mois et puis après tu te lasseras, quoi. Et il y a un truc un peu comme ça, quoi. J'étais hyper, hyper mélancolique, hyper triste de les laisser. D'ailleurs, j'ai fait vraiment... j'étais pas très bien, en fait, juste après. J'avais vraiment comme un gros vide et tout. Du coup, j'ai fait des trucs assez bizarres et puis après, ça s'est restabilisé, quoi. En fait, il y a tout un tas de personnages que j'avais prévus. J'avais prévu leur existence. Il y a un personnage, je l'avais pas prévu, lui. C'est vraiment une apparition, déjà. Et après, je l'ai fait vivre, et je l'ai fait vivre avec des choses très profondes en moi, quoi. Enfin, il y a eu un truc, je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en transe. J'ai écrit ce passage pendant à peu près une dizaine de jours. Je travaillais énormément, jusqu'à 11 heures par jour, parfois. Je finissais très tard le soir, à 4 heures du matin, je me réveillais, je réécrivais en début d'après, mais je refinissais très tard, etc. etc. Et en fait... ouais, j'étais vraiment en transe. J'écrivais. Après, je relisais tout à voix haute. Et je me souviens que j'étais vraiment dans un truc où ce personnage me faisait vraiment super rire. Du coup, je rigolais quoi en relisant les passages. Mais comme si vraiment directement, c'était plus moi qui les avais écrits, mais lui, il avait vraiment une forme à lui. Enfin, c'était lui quoi. C'était ce personnage. Il existait et il me faisait marrer. Et c'était hyper. Ouais, pareil, un truc un peu de dissociation comme ça, hyper intense comme moment. Ouais. J'ai pas retrouvé du tout dans la suite de l'écriture. J'ai écrit depuis très très tôt dans ma vie, et il y a eu des moments où j'ai pas du tout écrit, notamment post-diplôme, quoi. Je pense que j'ai arrêté d'écrire au moment où je me suis mis à avoir un boulot salarié post-diplôme, et avec l'arrêt de l'utilisation des blogs. Moi, j'écrivais beaucoup sur blog, parce qu'il y avait blog au début, évidemment, mais en fait, après, voilà, de manière peut-être plus littéraire, dans des blogs, après, je sais plus c'était quoi les noms, là, Overblog, machin. Moi, j'ai tout un tas de blogs. Franchement, je pense que j'ai bien eu une bonne dizaine de blogs, quoi. Je parlais toujours de choses de manière très, très cryptée. Vraiment, on n'est pas sur du journal intime, quoi. Pas des choses claires, mais vraiment des choses très poétiques, très cryptées, très machin, très trucs et tout. Avec des images, des motifs, des choses comme ça. Et qui sont pas spécifiquement adressées, mais c'est comme si c'était un espace à moi que j'ouvrais, quoi. Je pense que j'aurais pas eu la motivation d'écrire sur un autre support. Et d'ailleurs, j'ai essayé. Hein. Genre, j'ai écrit des... J'avais des cahiers comme ça. Des fois, je me suis dit, ah, je vais écrire un journal intime, mais j'ouvrais mon cahier et j'écrivais une page. Mais j'avais envie de me gifler, mais à un niveau. Mais c'était trop grave, quoi. Genre, je me relisais, j'étais là, mais en fait, mais casse-toi, quoi. Genre, vraiment, c'est... Et je déchirais les trucs et j'ai pas gardé une seule trace de ça. Je pouvais pas me voir, en fait. J'ai pas écrit pendant 1000 ans et en fait je me suis remise à écrire au moment d'un burn-out que j'ai fait, un burn-out associatif. Je passe une dédicace à tous mes burn-outés associatifs là, on est très nombreuses. Il y a vraiment ouais, où, eu ce truc où je me suis mise déjà à avoir des... En fait à me Enfin, maintenant, je le dis avec le recul, sur le coup, je me rendais pas du tout compte, mais en fait, je me suis mise à avoir des débuts de synopsis, d'histoire, avoir un petit pied dans la fiction, quoi, mais sans m'en rendre compte vraiment. Je me disais, ah tiens, mais ça ferait une bonne histoire, bah tiens, ça serait un bon roman. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je parlais avec mon frère et tout, on discutait de choses et d'autres, de sa passion pour les espaces vides qu'il va visiter, comme ça, lui fait du parcours et tout. Enfin, je me suis dit, c'est vraiment un personnage de fiction, le frérot, là, enfin, mon grand frère. Et du coup, je me suis dit, purée, c'est trop intéressant. Et j'ai commencé à avoir des idées par rapport à ça. Et puis, j'ai commencé à écrire, en fait. Et je me suis rendu compte, après coup, que c'était pas du tout anodin. C'est que je pense que quand on est dans l'associatif, surtout, où, en fait, on va quand même chercher du sens dans ces métiers-là, justement, à concilier un peu le fait de gagner un peu d'argent et d'être à l'endroit des convictions politiques, notamment. Bah, quand t'as plus ça, en fait, t'as besoin de le retrouver quelque part, quoi. Et en fait, moi, tout de suite, finalement, mon réflexe a été d'ouvrir une page et de me dire, bah là, en fait, il n'y a personne qui peut me dire quoi. Enfin, c'est mon espace à moi, en fait, qui va dire quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc. Et ça, c'est après coup. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est logique. Pendant mon premier burn-out, je voyais déjà quelqu'un, en fait, avant de faire un burn-out. En fait, c'est elle-même qui m'avait mis sur la piste. Elle m'avait dit, mais tu fais un burn-out émotionnel. En fait, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, là, t'es en burn-out émotionnel, quoi. Je connaissais pas ce terme, mais effectivement, ça correspondait à peu près à la situation, quoi, où t'arrives plus à absorber, quoi, c'est compliqué. Ça a duré des années, en fait. Ça s'est installé sur des mois, et ça a vraiment duré des années. Et après, voilà, ça s'est, ça s'est un peu calmé, etc. Mais quand j'ai commencé à reprendre une activité salariée, après, c'était vraiment genre, j'avais des traces, quoi. J'étais un peu parano, j'avais toujours peur qu'on pense que je bosse mal, alors que c'est pas du tout des trucs que j'avais avant, quoi. Avant, je savais que j'étais qualifiée pour ce que je faisais, que je bossais bien et que vraiment il n'y avait pas de galère. Et en fait, ça m'a tellement fragilisée, mais après sur des trucs aussi très intimes. Mais ouais, sur le plan du boulot, et là j'ai eu la chance d'avoir un taf assez cool pendant un an où ça m'a vraiment réconciliée avec le salariat. Enfin, réconciliée. C'est un bien grand mot. Mais en tout cas, je me suis dit, ah ok, c'est de nouveau possible d'avoir des périodes de salariat où c'est cool, où ça se passe bien, les gens ils sont contents de ton taf. Et puis c'est des collègues vraiment sympas, bienveillants, j'aime pas trop ce terme, mais là je trouve que ça s'applique. En vrai, ça a duré des années, et en fait le truc c'est que je pense que ça fragilise quand même ta base, et que là moi je suis de nouveau en burn-out, aussi parce que je pense que j'en avais fait déjà un premier, quoi. Et que du coup c'était pas... Tout n'était pas totalement consolidé, et que... Et que le trop de boulot, là, ça m'a redéclenché, quoi. Là, j'ai enfin mis une réponse automatique à mes mails. Pour dire, donc j'avais fait une première fois en disant, voilà, merci pour vos propositions, machin. Mais c'était pas assez clair, en fait, parce que les gens, ils continuent de pas me respecter. Du coup, j'ai refait une réponse et j'ai vraiment mis, texto, je suis en burn-out. Voilà, donc merci pour vos mails, je suis en burn-out et tout. Je peux pas répondre dans la minute. Je lis les mails, je vais vous répondre, mais pas dans la minute. Et si je peux pas répondre aux demandes urgentes. Donc si c'est une demande urgente, je suis désolée, je pourrais pas l'honorer, quoi. Et puis après j'ai mis un petit PS en mode merci de ne pas m'écrire sur Instagram, WhatsApp et tout. Ça me paralyse, en fait, c'est contre-productif, les gars. Genre en mode vraiment, vous obtiendrez pas une réponse plus rapide de ma part. Et en fait j'ai eu plusieurs réactions de gens qui m'ont dit franchement. On a bien compris du coup que t'étais pas en forme. Mais même moi là, je crois que je suis au bord du gouffre et tout. T'es là en mode ah ouais. Bah ça dit tout, en fait, ça dit tout. On s'est tellement habitué à bosser dans l'urgence, à être là, à se presser les uns les autres, à s'aspirer et tout, qu'en fait et quand tu mets des mots là-dessus, tu te rends compte que bah oui, autour il y a plein de gens qui sont sur le fil, sur la corde et pas loin de tomber, quoi. C'est hyper grave, en fait. Enfin, moi ça me fait trop de la peine. Ce que je dis aux personnes à qui j'en parle, c'est que je pense que là où il faut faire hyper attention, c'est que souvent quand tout va bien, quand ta vie privée ça va, ta famille ça va, machin, en fait le burn-out tu vois pas arriver. Et probablement peut-être qu'il va pas totalement se déclencher, tu seras peut-être juste épuisé, tu seras peut-être juste surmené, mais tu vas pas forcément glisser dans le burn-out. Et en fait ce qu'il faut faire attention, c'est que t'es quand même dans un état d'épuisement, et que s'il y a un truc qui commence à dysfonctionner ailleurs, mais là c'est soudain, quoi. Et pour moi c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je repense souvent à la chanson de This Is, là, tu vois, j'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. Mais franchement c'était vraiment ça, quoi, genre t'étais là d'un coup, genre ça va pas au taf, ton couple il est nul, genre vraiment. C'est bon, j'avais pas de gosse, mais si j'en avais eu, j'aurais perdu. enfin vraiment tout, et mon appart quoi, parce que d'un coup tu te sépares genre de la personne avec qui t'es et tout, et genre moi là, il s'avère que je vivais chez lui, donc du coup ouais, tu perds aussi ton appart, donc t'es dans une sauce de ouf en fait quoi. T'as vu, tu viens de te faire licencier et tout, enfin c'est trop nul quoi. Et du coup en fait c'est un peu comme ça que si t'as plus de d'espace ressources, espace un peu safe, de gens pour te rattraper, pour te faire du bien, là c'est là qu'en fait ça prend des dimensions vraiment flippantes en fait. Et je pense vraiment que c'est là qu'il faut faire attention et pas se dire ouais non mais c'est juste un peu fatigué au taf. Non si t'es fatigué au taf, prends-toi un arrêt quoi, vraiment c'est important.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue.
Je crois me rendre compte que ça a pris racine à ce moment-là, quoi. L'écriture du roman, en tout cas, elle a pris racine à ce moment-là. Enfin, je conscientisais rien, tu vois. Genre, j'étais juste en train de... Enfin, c'est vraiment une espèce de brouillard comme ça, essayer de souffler pour dissiper, je sais pas, 3 km de nuages, quoi. Donc, c'est franchement pas évident, quoi. C'était une période vraiment chelou, hein. En plus, on m'a fait des dingueries dans mon couple aussi, là, franchement. Et que je me suis mis à avoir des trucs, genre, comme... ouais, des crises de spasmophilie, des trucs vraiment... Et en fait, ils reviennent maintenant. Et ça, c'est hyper relou parce que tu te dis, purée, en fait, j'ai fait toute ma vie sans avoir ça. Et en fait, à partir du moment où ça se déclenche, en fait, c'est comme si ça restait, que c'est comme si ton corps, il enregistrait cette possibilité de manifestation du trouble. Et que maintenant, ça, moi, là, sur mon deuxième burn-out, ça me revient. Genre, j'ai vraiment... tu sais, des fois, je suis là dans ma... T'as l'air, je crois que ça m'arrivait. Je crois que c'était... Ouais, tout à l'heure ou hier, je sais plus. Et d'un coup, j'ai une pensée un peu par rapport au taf, à tout ce que je vais devoir là faire comme kilomètre de boulot, enfin, de devoir reparler du livre, alors ça fait plus d'un an, enfin bref, c'est... Et là, d'un coup, il y a mon épaule qui se m'a démarré d'un coup, quoi. Et tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est... Ça me saoule, quoi, genre, enfin... En plus, t'as toujours un peu l'impression de faire semblant, alors que t'as, non, Diati, en fait, voir ton corps, il te montre juste que, genre, c'est pas... Enfin, c'est que t'es en burn-out, quoi, tu vois, tout simplement. Après, c'est un peu enfantin de dire ça, mais c'est... Du coup, t'es un peu là en mode purée, c'était bien avant, quoi, tu vois, c'était bien avant quand ça existait pas, quoi, et que est-ce que ça va durer toute la vie, du coup, que... Après, c'est rien, c'est des petites choses, c'est pas vraiment des trucs démesurés, et il y a des gens qui vont vraiment beaucoup plus mal, mais genre, ouais, t'as quand même un peu ce truc de avant j'avais pas ça, quoi, et du coup, franchement, ça fait chier, quoi, vraiment, quoi. J'ai fait une seule crise d'angoisse dans ma vie, c'était au moment des prix littéraires, les grands prix d'automne, là. Ça, c'est aussi un truc, c'est particulier, quoi. C'est vraiment... c'est la validation par des élites, hein, quand même, du talent supposé d'une autrice ou d'un auteur. Et moi, j'étais sur une liste d'un prix. Au départ, ça m'a vraiment... J'étais très hermétique à ça, dans le sens où, vas-y, moi, je fais ma vie, j'ai mon taf, j'ai mes trucs et tout, et puis voilà, enfin... Un prix, tout le monde est très content d'avoir un prix. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça, surtout pour un tel roman, moi, j'étais là, ça permettra à l'histoire de circuler, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Mais j'étais très extérieure. Et puis, en fait, progressivement, le système fait qu'on t'en parle hyper souvent. T'entends des rumeurs, des trucs et tout. Et ça te finit par t'attaquer, te grignoter et t'avoir au cœur, quoi. Au taf, je me souviens, j'étais au taf et j'ai fini... Je savais pas ce que c'était encore une crise d'angoisse. Je savais ce que c'était d'être angoissée, d'une montée d'angoisse, mais une crise, je ne savais pas. Et j'étais là, ah ouais, ok. C'est un concept, quoi. La gravité, j'avais un problème de gravité. Genre, j'avais l'impression que ma tête allait s'enfoncer dans le trottoir. Je rentrais chez moi, j'avais l'impression que mes pieds s'enfonçaient dans le sol. J'avais la nausée, j'arrivais. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. J'ai pris une douche glacée, je me souviens. Ça m'a un peu rééquilibré. En plus, j'avais plus mon docteur, là. Mon grand docteur et tout, genre il répondait pas, j'étais là mais comment je fais pour avoir des petits médocs et tout, et du coup j'ai rien pu avoir à ce moment là donc j'ai dû me débrouiller juste avec ma ressource, quoi. Donc ouais, et depuis du coup de fait pareil, c'est comme si ça avait scellé quelque chose, et que là depuis le burn-out c'est pareil, je refais des espèces de, jamais des crises mais des montées comme ça. La dernière fois j'étais dans les transports en commun, j'allais répéter une lecture du texte. j'avais mon matériel et tout, et là je me dis purée, je suis en train de faire une intox alimentaire et tout quoi. Genre j'avais envie de vomir, je me dis oh vas-y, je suis dans la merde et tout, je suis dans la 11, j'ai trop peur de vomir maintenant et tout. Et puis là je commence à faire le point sur ce que j'ai mangé, je me rends compte qu'en fait j'ai mangé que des légumes et qu'il n'y a vraiment pas de chance que ce soit ça. Puis du coup je suis en train de... Ouais, je me dis mais en fait juste t'es en train de faire une montée d'angoisse quoi. Et là tu te dis mais c'est abusé, genre t'es dégoûté, t'es là mais vas-y, il n'y a rien quoi. Et en fait ouais c'est... Ça, c'était pas mal lié à cet été aussi, avec la mort de Naël et tout. Moi, je pense que ça m'a un peu... Ouais, le fait qu'il y ait des images, le fait qu'il y ait une montée, une puissante montée de l'extrême droite derrière, machin. Enfin, moi, ça m'a complètement déclenché. Vraiment, c'est... Je pense que ça a été un peu... ouais, un énorme déclencheur du burn-out. Et depuis, c'est très compliqué pour moi de parler du livre et de faire des lectures et tout. C'est devenu... Ouais. Enfin, moi, c'est physiquement compliqué, quoi. Souvent, j'ai des bouffées de chaleur et tout. Ouais. Mais bon, ça a passé, mais... Bon, déjà, ça va beaucoup mieux, déjà. Ouais, ouais. Fais du sport et tout. Les petits frères font gronder des bécanes empruntées aux plus grands. Leur corps encore tout gringalet et dans les yeux l'imminence du tremblement du monde, avec du bruit, avec du risque. Quand je les regarde défiler, de ma fenêtre, une partie de moi est dans l'envie. Du plaisir d'être coupé du monde par le son du moteur et le fouet de l'air sur le visage, de s'élever avec la machine pour retomber sur le sol sans fracas. Depuis qu'on a cessé de se déplacer en calèche, la jeunesse retire aux mobilettes leur peau d'échappement pour les faire gueuler plus fort que le vacarme des rouages qui la forcent à vieillir. C'est réel. Les petits frères ont le rire et l'apostrophe facile, ou ils ont l'air bornés et arrogants selon le point de vue, et ils se promènent toujours par grappes d'une dizaine. Mais dans les faits, chacun est souvent accaparé par un truc noir, insondable, une affaire bien à lui qu'il tente de chasser en bande et en allant plus vite que le vent. Solitaire entre eux. T'as des problèmes chez toi ? Fais de la bécane. C'est un truc qui revient souvent aussi chez les personnes qui pratiquent le cross-bitume, en fait, de dire « Ouais, mais nous, on n'est pas... » Enfin, parce que c'est une pratique hyper criminalisée et tout, bon, qui est somme toute dangereuse, hein, mais en tout cas, voilà, très, très criminalisée. Bah, il y a eu des morts, il y a eu des violences policières et des morts, des tués dans ce cadre-là, de la bike life. Mais c'est vraiment... je crois qu'à l'unanimité, c'est un peu ce que ces personnes-là disent, en fait. C'est, nous, ça nous permet de nous évacuer. D'ailleurs, je fais revenir le motif un peu plus loin dans le livre. L'évacuation des pensées sombres sur la bande d'arrêt d'urgence, le long de la bande d'arrêt d'urgence. Mais vraiment, t'as ce truc de prendre de la vitesse, de l'adrénaline. Du coup, ça modifie la chimie du cerveau un temps, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc où, ouais, ça, je pense que ça stimule les endorphines, la dopamine. Enfin, je sais pas trop comment les appeler, là. Mais tous ces trucs-là, là. Donc, ouais, je pense que... Je pense que voilà, c'est une pratique qui permet. Et j'avais entendu dans une vidéo YouTube des mecs dire ça, tu sais, en mode mais nous voilà, on se drogue pas, on boit pas particulièrement, c'est ça notre truc en fait. Et c'est vraiment ça qui nous permet de changer la. Et j'emprunte une phrase à un type justement le. T'as des problèmes chez toi, fais de la bécane. Ça, je l'ai emprunté à je sais plus qui, dans je sais plus quelle vidéo. J'avais trouvé ça très fort quoi. T'as des problèmes chez toi, fais de la bécane. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'en fait, enfin, là, je suis en train d'y penser en vous en parlant, mais que quelque part, c'est hyper sain en fait. Enfin, il y a vraiment un truc de. Au lieu d'aller, tu vois, genre, ouais, gamberger et puis faire rejaillir ça sur tes proches et tout, non, sors en fait. Va te calmer, sors. Fais tes trucs. Surtout que là, on parle de la plupart de ces personnes, c'est des mecs, cis. Donc voilà, avec tout ce que ça implique d'être un mec cis, toute l'éducation que t'as reçue, comment la société t'a formaté dans la violence, je pense qu'à ce niveau-là, on peut même parler de maltraitance, quoi, genre comment on éduque les mecs, c'est un délire. Et voilà, comment, tu vois, genre, au lieu de faire rejaillir ça sur ton entourage en étant complètement toxique, je pense que ça empêche pas des mecs toxiques d'être toxiques, mais par ailleurs, voilà, je me dis, tu vas te canaliser aussi dans une pratique... comme on appelle ça, de sport extrême, quoi, et d'aller vraiment chercher aussi un peu la sensation. Après, moi, il y avait aussi vraiment toute la partie artistique, là, qui est moins dans le thème et tout, mais que je trouvais aussi intéressante. C'est d'aller... c'est pas juste du sport, c'est d'un coup, c'est aussi s'exprimer avec son corps et tout. Je pense que c'est pas anodin aussi, ouais, c'est pas juste la moto. Non, c'est en fait qu'est-ce que tu vas chercher à commettre en fait dans le réel avec ton corps. C'est quand même des irruptions et tout. Enfin, c'est beaucoup de jeux d'équilibre en fait, le cross-bitume. C'est quand même le terme, il n'est pas anodin non plus, l'équilibre. Tu vois, de faire des Y, tu vois, sans les mains, rouler le plus longtemps possible sans tenir ton guidon. Et après, il y a des figures encore plus acrobatiques et tout. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de tenir en équilibre. Tu vois, donc il y a vraiment un truc, je trouve, qui est finalement assez intéressant. Je m'en étais jamais rendu compte avant. Un des deux bikers du roman, je dis qu'il est au galop sur un fil invisible. Donc vraiment, c'est ça. Tu peux pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment ce... Et puis, mais l'idée, c'est d'aller au bout, quoi. Donc oui, il y a plein de... En vrai, c'est un bouquin qui est marrant parce qu'en fait, il y a énormément de sens que tu peux dégager de tout un tas de trucs, quoi. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi une... Pour parler français, hein, mais un truc... Avec la mort, quoi, tu vois, parce qu'en vérité, déjà, il y a vraiment le danger imminent de la police, hein, parce que franchement, il y a quand même. Enfin, il faudrait. Je sais plus si c'est interdit. Je crois pas que les courses-poursuites soient interdites en France, et je crois que c'est un vrai problème, en fait. Il faut interdire les courses-poursuites, c'est hyper grave. Enfin, il faut arrêter de poursuivre les jeunes à moto. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, il y a eu des tas de morts, en fait. Parce qu'en fait, t'es poursuivi par la police, donc tu conduis mal, en fait. Et à un moment donné, enfin, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Mais bref. Donc, du coup, il y a ce danger-là, mais il y a aussi, effectivement, tout simplement, la moto, c'est dangereux, on le sait, quoi. Enfin, n'importe quel parent est là en mode, non, je t'achèterai pas un deux roues, même en ayant les moyens, tu vois, parce que d'un coup, archi peur pour les gosses, quoi. Et c'est un truc réel, c'est hyper dangereux. Donc il y a quand même ce truc d'aller chercher quelque chose d'extrême, une expérience extrême à la limite. Je sais plus, enfin, c'est une phrase à un moment donné où, en tout cas, ce qu'elle veut dire, c'est que, en vrai, la jeunesse a toujours été la jeunesse, en fait. On a besoin de faire du bruit et casser la tête aux gens, tu vois. C'est le principe de la jeunesse. Il n'y a pas besoin sous-entendu, il n'y a pas besoin de criminaliser les jeunes juste parce qu'en fait, ils font du bruit, quoi. C'est pas ça la solution, en fait. Il faut bien que jeunesse se passe ou se fasse, je sais jamais l'expression, mais. Et que, ouais, il y a un truc comme ça et. Il y a toujours eu, enfin, je veux dire, il y a toujours eu des motos, quoi. Il y a toujours eu des mobilettes, il y a toujours eu du bruit et des roues arrière. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très gracieux dans la pratique du cross-bitume. Et qui, en fait, je pense qu'il y a des gens, ça les dépasse, en fait. Ils sont là, mais attends, mais d'où vous vous permettez, là, comme ça, d'être des artistes, en fait, hein, clairement, c'est vraiment ça. D'avoir une pratique qui échappe, comme ça, aux conventions, qui échappe à tout un tas de. Au contrôle. Alors que pourtant, en plus, vraiment, je pense que c'est quand même assez important de le rappeler. Bien sûr que t'as des jeunes qui font chier. En roulant trop près des habitations et machin, l'idée c'est vraiment pas dire que ça n'existe pas et de tu vois et de d'édulcorer le tableau, mais simplement vraiment les mecs qui font ça, genre la plupart du temps parce qu'ils ont pas envie de se faire emmerder par les flics, en fait ils te repèrent une zone industrielle où il y a pas de passage, ils y vont un dimanche, ils ramènent les barbecues, enfin ils font vraiment en sorte que parce que en fait de toutes les manières tu peux pas vraiment faire du cross bitume si t'es interrompu tout le temps, c'est pas possible en fait, enfin littéralement c'est juste pas possible, enfin tu peux pas, il te faut des mètres, des kilomètres et une route droite pour pouvoir commencer à taper des figures et tout, donc en fait la plupart du temps ils vont vraiment dans des zones où il y a pas d'habitation, ouais. Mais on les fait quand même chier. Il y a toujours un mec qui va appeler en mode « Oui, alors, t'as qu'un mouchoir devant le combiné, quoi, qui va être là en mode ouais, en fait il y a des jeunes qui font n'importe quoi et d'un coup, t'as les Schmitt qui arrivent, et nanana, et potentiellement des courses-poursuites, et tatati, et tatata. Donc en fait, c'est... Ça, je pense que c'est important de le rappeler, quand même. Les gars avaient tendu leurs papiers sans rechigner, sauf Issa, qui s'était permis de leur dire que c'était la troisième fois que ça commençait à fatiguer un peu. Qu'il y avait 112 personnes autour, mais que, bizarrement, c'était encore sur eux qu'ils s'étaient focal direct. Que c'était assez maintenant, qu'ils avaient envie de pouvoir discuter en paix, wesh. Les agents, ça leur avait pas plu qu'ils veuillent entamer un dialogue, comme d'hab. Ils avaient corsé l'intervention, en lui demandant de se mettre à l'écart pour qu'ils puissent procéder à une fouille. Comme d'hab. Issa, il avait dit « c'est mort ». Pas comme d'hab. Et le vrai problème, c'est que il avait rajouté, tout de suite après ses morts, « Vous cassez les couilles ». Un des agents avait direct dégainé sa télécommande de PV électronique et dit un truc à l'oreille de son collègue du style. « Il nous facilite la tâche aujourd'hui, décidément. » Puis à l'intention d'Issa, « Ça va être un outrage, monsieur. » Issa, qui n'arrivait plus à se contenir, avait demandé de quel outrage on parlait. Et l'agent avait répondu qu'insulter des agents, c'est pas admissible. C'est pas respectueux de traiter un agent de casse-couille, alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. « Bah allez-y, mais comptez pas sur mes billets », avait dit Issa. « J'ai juré vous forcer avec vos amendes. Tout le temps des amendes. Tout le temps les mêmes amendes, des amendes pour tapage, des amendes pour jet de liquide insalubre, je sais pas quoi. Vous êtes même pas créatif. Des fois, on reçoit des amendes, on n'était même pas dans la rue ce jour-là. Une fois, j'ai reçu une amende, j'étais en vacances à la vie de ma mère. Une fois, j'ai reçu une amende, voilà, j'étais déjà en garde à vue, les frères, c'est quoi ça ? C'est bon, vous aussi. Vous allez pas me dire que là, maintenant, vous constatez quelque chose de grave qu'on est en train de faire. Bah voilà, forcez pas alors. » Je peux qu'imaginer, je suis pas une victime de ce tabassage fiscal, j'aime bien l'expression. Je tenais à ce que ça soit dans le texte, parce que c'est souvent revenu quand je parlais avec les uns les autres et tout. C'est quand même des... J'ai pas mené d'entretien pour faire ce texte, mais il s'avère que par ailleurs, d'activité militante en activité militante et tout, t'établis des dialogues avec des personnes qui sont, elles, directement concernées par les violences policières. Ouais, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer comme la violence policière, c'est pas uniquement une affaire de mort, ce qui est déjà très grave hein, et important et tout, l'idée n'est pas de minimiser. C'est pas seulement, je mets d'énormes guillemets, des assassinats, ni du tabassage physique, mais c'est en fait tout un processus de harcèlement qui va du harcèlement moral, hein, vraiment verbal, genre vraiment, où par exemple les flics ils font un truc... Un truc pas mal aussi, c'est... Enfin, ils savent très bien de toutes les manières qu'ils harcèlent. Enfin, ils connaissent les identités, ils connaissent ça, ils connaissent tout le monde, quoi. Et puis, ils connaissent aussi les liens entre les gens. Donc, en fait, moi, il y avait un jeune à qui je parlais qui disait qu'en fait, ils s'en servaient de ça pour pourrir les relations de l'intérieur aussi. En tout cas, tenter. C'est hyper perfide, quoi. C'est vraiment genre... C'est très précis, en fait. C'est très méthodique. Il y a vraiment un mode opératoire, en fait, de tout ça. Et j'avais un peu envie de révéler aussi voilà, ce qui se cache derrière ce dont on parle le plus. Mais pas assez, malheureusement, mais ce dont on parle le plus, c'est du harcèlement moral, c'est du harcèlement sexuel, faire baisser les pantalons, intimer aux jeunes de tousser, ça c'est un truc qui revient hyper souvent en fait, dans les témoignages, le harcèlement financier en fait, c'est-à-dire endetter des familles entières, c'est quoi d'autre que la coercition pure quoi en fait, c'est vraiment empêcher littéralement des communautés entières d'avancer, parce que si tu paralyses les gens financièrement, qu'est-ce qui reste à la fin en fait? C'est-à-dire que toi-même, en fait, déjà, en tant que jeune, tu te construis vraiment dans ce truc où, en fait, t'es tout le temps de trop, t'es jamais au bon endroit, enfin, tu passes ta vie à courir, enfin, je veux dire, c'est horrible, en fait. Enfin, en tout cas, tes souvenirs, ils sont teintés de la police, c'est ça dont il faut prendre conscience. Moi, je trouve ça d'une violence extrême, quoi, de se dire qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de leurs souvenirs qui sont teintés de la police. Et ils te racontent ça au calme, en plus, parce que, bah, blasé comme Jaja, quoi. Genre, ils sont là en mode, ouais, ah, ce jour-là, ah oui, c'est vrai, ce jour-là, c'était l'affaire des chichas. Limite, ils renomment les événements, tu sais. Ah oui, c'était l'été de 2021, là où il y avait eu le truc des chichas avec la police. Et qu'en fait, c'est anodin, c'est normal, en fait, c'est grave, quoi. C'est hyper grave. Et voilà, de ce truc, de se dire déjà, de se dessiner, soit grandir. Avoir des perspectives, s'imaginer en tant qu'adulte et tout, alors qu'en fait, t'es effectivement régulièrement comme ça interrompu. Enfin, ta vie, elle est régulièrement interrompue par les dépositaires là, de l'ordre, je sais plus comment ils appellent là. Pardon, je suis un peu vénère, faut que j'apaise mon cœur. du coup, voilà, il y a aussi du coup cet aspect financier quoi, qui vient justement, je trouve, sceller un peu tout ce mode opératoire là. Si on va aussi, à travers le corps des enfants, avoir leurs parents, en fait. Et ça, c'est archivissard, quoi. C'est quand même vraiment mettre des amendes et des amendes et des amendes et des amendes et des amendes. Et là, vraiment, ce que je dis, c'est vraiment c'est documentaire, quoi. C'est effectivement qui se... Les parents n'ont pas de quoi les payer, donc en fait, ça, ce truc, parfois, on les reçoit même pas. Enfin, quel avenir t'as face à toi quand en plus de ça, genre déjà, financièrement, c'était compliqué, mais en plus de ça, là, il y a des dettes de ouf. Enfin, tu vois, comment tu développes, hein, et après on est ah, les jeunes ils dealent et tout, mais frère comment tu veux t'en sortir, enfin tu vois, genre, je veux dire, à un moment donné c'est quasi de la prophétie autoréalisatrice quoi, enfin je veux dire, de toutes les manières on les pousse dans les bras de l'économie parallèle clairement quoi, donc ouais c'est ça en fait, c'est comme si c'est scellé des destins, même si là je le dis de manière un peu dramatique, il y a certainement des moyens d'en réchapper, mais quand même quoi. Le truc que je conseille d'écouter toujours, c'est j'en parle tout le temps, c'est le podcast Undestilled on Know My Name, faut l'écouter de manière inconditionnelle, il est trop bien, mais il y a spécifiquement un épisode du coup avec Malika Mansouri, qui est une psychologue, elle a sorti un livre sur les émeutes de 2005, Révolte postcoloniale dans l'Hexagone, je crois que c'est ça une partie du titre. En fait, déjà elle parle vraiment de la transmission du trauma, hein, donc notamment sur la question coloniale, de à quel point nous, les fils et filles d'émigrés, on est encore complètement affectés, mais parce que on nous a transmis quelque chose de manière quasi intra-utérine, en fait, de la colère, de la tristesse, de la coercition. Enfin, on nous a transféré comme ça tout un tas de trucs et tout, et que bien évidemment qu'on est encore super énervé et que ça va vraiment pas s'arrêter, quoi. Ça s'appelle la transmission du trauma, quoi. C'est une réalité, quoi. Elle va aussi aller regarder un peu, justement, aller regarder c'est quoi le geste de l'émeute. Pourquoi on se met à brûler des choses, en fait. Pourquoi on fait brasier. Et du coup, c'est hyper intéressant comme elle en parle, parce qu'elle dit, mais c'est des questions de survie. En fait, déjà c'est extrêmement politique, mais au-delà de ça, c'est vraiment de la survie. C'est qu'à un moment donné, si tu fais pas un brasier, si tu externalises pas le brasier en toi, il va te consumer, en fait. Donc c'est juste une manière de ne pas devenir fou, en fait, vraiment, de pouvoir continuer de vivre et de ne pas devenir fou, d'allumer, de faire sortir le brasier de soi, quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Mais du coup, j'ai écouté le podcast, moi, après avoir fini mon livre, mais moi, ça m'a complètement éclairé sur l'intention de mes personnages. J'étais, ah, mais bien sûr que c'est ça qu'ils font, mais je savais pas. Enfin, c'est comme si j'avais écrit, il manquait des bouts, quoi. Et là, j'ai pu recoller des pièces, enfin, j'ai pu, réaligner des choses et tout. Je me suis dit, ah ouais, bah bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs brasiers, il y en a un gros à la fin. Et effectivement, genre, il a plein de vocations, mais évidemment que le geste collectif, parce qu'il s'agit aussi de ça, c'est pas un geste individuel d'aller cramer une poubelle tout seul, non, c'est pas ça, c'est vraiment se crocheter les bras, même si symboliquement, et d'aller ensemble transcender une émotion très très grave, en fait. Et oui, là, j'ai mis en récit, mais c'est clairement ça dont il s'agit, ouais. Ils essayent ensemble de vraiment de survivre à la violence et de ne pas devenir fous. Et 20 sacs, et 2 mètres cubes de gaz, et des amorces. C'est à peu près tout. Tout ce qu'il faut pour faire exploser une sortie de secours déguisée en œuvre d'art. Dans notre dos, on entend l'infime clic d'un levier qu'on abaisse. C'est Neil qui presse le dernier bouton du boîtier. Clic. Le cœur de la terre, comme 1000 tonnerres joués en simultané, un bruit phénoménal s'élève jusqu'à nous. Boum. Sous le sol, les amorces ont commis leurs étincelles, libéré le gaz comprimé dans les sacs, soufflé, explosé la pyramide depuis son intérieur, creusé le béton sous le 0 vers le -1, vers le -2, propulsé le triangle vers les 4 côtés de la place, dispersé le temple, morcelé le mausolée. Onde de choc, pression, dépression, écho, indice de réfraction, pharaonique, boum. Un souffle, des comètes en fusion de la terre vers le ciel, 2 secondes d'air qui brûle, puis de la fumée, des volutes qui s'étalent, tentacules diffus, et des milliers et des milliers et des milliers de particules de verre et de métal, poussière de moins d'un millimètre, chute de 3 cm, carré de 7 mm, losange, hexagone, octogone de 15 cm, étoile, ellipse, trapèze, propulsé dans l'espace à une vitesse supersonique. Image transparente de l'écho au sol, horizontale, déplace la réalité à mesure qu'il s'élève vers nous. Comme une vague un peu plus haute qu'une autre à marée basse. Comme la proposition d'une nouvelle mise au point. Boum. Mon deuxième burn-out, on peut en parler, hein, franchement, faut en parler même, je pense que c'est important, hein, en vrai, je pense après c'est le problème de ces termes-là, c'est qu'ils ont été pas mal galvaudés aussi, donc j'ai l'impression que voilà, le fait qu'on les utilise aussi parfois à tout bout de champ fait que du coup on n'est plus trop cru quand on l'emploie, mais en même temps, moi je trouve ça intéressant, en tout cas c'est vraiment mon point de vue, de se l'approprier vraiment, quoi, enfin, moi c'est pour ça que je l'ai mis dans mon mail, j'étais là, je suis en burn out. J'ai failli mettre surmenage, hein. J'étais à non. J'ai vraiment le terme, je suis en burn out, c'est important, quoi. C'est vraiment, je suis cramée, quoi. Je suis cramée parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, quoi. T'es vraiment, t'es à bout de force. Enfin, là, celui-là, il était... Enfin, il l'est, hein, parce qu'il n'est pas fini. Il est particulièrement spectaculaire, quoi. Ouais, t'étais à bout de force, t'as plus de jus. Je suis devenue lunatique, quoi. C'est pas vraiment un truc... je sais pas, voilà, je suis... Enfin, comment dire, je suis pas le tempérament le plus stable de tous les tempéraments d'humains, mais franchement, je pense pas que ça soit une de mes caractéristiques, quoi, lunatique. Et pourtant, franchement, là, ça va un peu mieux, mais ouais, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était vraiment ça, quoi. Genre, d'un coup, en plein milieu de la journée, parce que j'ai trop de charges, ou que, ouais, je vais devenir archi pénible, quoi, relou, je me mets à pleurer, ou enfin tu vois, ou à angoisser, ou enfin vraiment tout le temps de changer d'humeur comme ça, c'est hyper fatigant. Ouais, d'être tout le temps en insécurité, de se sentir toujours en insécurité. Et puis je supporte plus la charge mentale, quoi. Et ça fait un moment ça, mais vraiment là c'est chaud, quoi. Je fais des listes. Tu sais, c'est mignon, hein, mais c'est ouais des listes de trucs qui devraient relever de l'évidence, mais ça je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui se reconnaîtraient là-dedans, quoi, N'oublie pas d'aérer ton lit avant de le faire le matin, quoi, limite, tu vois, genre, c'est vraiment un truc un peu comme ça. Après, c'est vraiment pas le même, c'est pas le même burn-out, hein, c'est pas le même burn-out. Là, c'est beaucoup un burn-out de, j'ai beaucoup trop travaillé, vraiment. Parce que le premier, c'était beaucoup plus vicelard, quoi, il y avait un peu de harcèlement. Moi, moitié de là, du harcèlement au travail, à moitié plein de trucs, à moitié, encore une fois, un basculement des convictions. Enfin, là, c'est vraiment, j'ai beaucoup trop travaillé, parce que par ailleurs, j'avais un 35 heures, parce qu'il faut manger à la fin, quoi, c'est quand même vital, quoi. Du coup, j'avais un 35 heures. Et en fait, j'ai pas eu ni de vacances ni de week-end complet pendant plus d'un an. Donc, au bout d'un moment, ça finit par lâcher, quoi. J'ai lâché plusieurs fois dans l'année, hein. J'ai eu des petits épisodes dépressifs et tout pendant l'année. Mais ouais, ça a vraiment... Le moment où, en fait, j'ai commencé à comprendre à quel point... Et pour autant, je savais, en écrivant ce livre et en le publiant, que bien évidemment que je serais tokenisée dans tous les sens, je le savais, et pour autant, je me suis vraiment rendu compte, avec tous les événements de l'été, et à quel point, en fait, je l'avais été, et que je l'étais là présentement, et que j'allais certainement continuer de l'être. Vraiment, quoi. Genre, c'est un truc de fou, quoi. Mais ouais, je pense que l'écriture, en tout cas, pour peut-être rester sur le thème, c'est très vulnérabilisant comme exercice. Je pense l'art en général, l'écriture particulièrement, puisqu'il s'agit... on écrit avec le langage, hein, donc forcément c'est soit vers les autres. La littérature, c'est directement ça. C'est un endroit de vulnérabilité parce qu'on est toujours dans une forme d'adresse. Comment on adresse quelque chose qu'on a envie de dire à d'autres personnes qui seront susceptibles de lire ça. Mais c'est comme si... Il y a ce truc qu'on en parle en permanence de ce geste qu'on a, donc tout le temps on paraphrase aussi d'une certaine manière ce qu'on a écrit. C'est pour ça que j'utilise le terme dissociation, parce que moi je crois que c'est vraiment cette expérience que j'ai faite, quoi, de me dire, mais d'être tout le temps en fait en permanence face à des gens, mais d'être pas complètement soi, puisqu'en fait je suis dans mon corps d'autrice, mais c'est quand même de mon corps à moi dont il s'agit. C'est vraiment mon corps, mon enveloppe, ma vraie peau, mes vrais cheveux, mes vraies perceptions. Et en même temps, bah ouais, mais je suis au travail quand je suis en librairie en train de présenter mon livre, je suis au bureau en fait. On s'adresse à l'extérieur, donc on est tout le temps dans une extériorité, et parce qu'on l'est, on subit des agressions, notamment des agressions racistes, etc. Moi, j'ai trop de trucs aussi à dire là-dessus, où vraiment tu te dis, mais t'as eu beau écrire un livre sur fucking ça, genre, mais il y a quand même des gens qui viennent te dire en mode, mais connaissez-vous les auteurs haïtiens? Et t'es là, mais quel rapport avec ce que j'ai écrit? Genre, êtes-vous connecté au continent en termes de littérature contemporaine? Et t'es là, mais en fait, moi je suis française, donc en fait, j'ai fait de la littérature française, et voilà, des choses comme ça, où en fait, ouais, t'es une forme d'espace public. Et je me dis, mais purée, comment tu vis ça quand ça fait, je sais pas, 5-6 bouquins que tu sors, ou comment tu vis ça quand t'es encore plus exposée, quand t'es, je sais pas, une influenceuse, ou... Mais parce que moi, j'ai juste écrit un seul livre, et déjà, je suis au bout de ma vie, quoi. Donc ouais, c'est un peu tout ça, quoi. C'est chelou, l'écriture, à ce titre-là, quoi. Et en plus, évidemment, voilà, tout dépend de ce que t'as écrit, mais si c'est assez politique, il se peut que ça recroise à un moment donné l'actualité, et que là, évidemment, qu'on va décrocher le téléphone pour te dire, bah tiens, viens nous donner une expertise, tu vois, genre de cette populace à qui on n'a pas du tout envie de parler directement, viens nous traduire avec les bons mots que nous, on va comprendre, puisque toi, t'es vraiment à la lisière, donc tu parles leur langue à eux, mais tu parles notre langue à nous, donc c'est parfait, tu vois. Et donc là, c'est ça qui m'a fait plonger, quoi, vraiment, genre ce truc où t'es là, mais en fait, vous pensez vraiment que je vais faire ça, mais en fait, grave pas, quoi, tu vois, genre, je vais juste pas faire ça. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont ouvert la voie et qui nous ont permis de pouvoir nous affirmer à cet endroit-là, justement, et de dire, bah non, en fait, je vais pas faire un exercice de traduction pour l'élite, ça ira. J'ai trouvé ça ouf, comme en fait on est vraiment assigné à certaines expériences. C'est ce que je dis, j'ai écrit une tribune pour Le Monde qu'ils n'ont pas voulu publier dans son intégralité. Du coup, je leur ai dit, j'arrête pas de cogner ce truc. Du coup, je leur ai dit que j'avais envie de la publier dans son intégralité, donc je le ferai pas avec eux. Et du coup, elle est disponible sur Manifesto, ce qui est trop bien, puisqu'en plus c'est gratuit, enfin c'est en accès libre. J'en parle du coup dans cette tribune de dire qu'il y a eu tout un mouvement social quand même cette année en France, avec une répression policière assez intense, notamment sur le mouvement écologiste, etc. Et je veux dire, moi, personne, à part Mediapart, n'est venu me dire « Ah bah tiens, tu pourrais nous écrire un texte, toi, de ton point de vue d'autrice, etc. » Il y a Mediapart qui m'a demandé, et d'ailleurs j'ai remercié et tout, pour la confiance. Mais sinon, personne ne m'a sollicité, ni de près, ni de loin. Par contre, à la mort de Naël, mais vraiment, c'est-à-dire que le lendemain, où tu te dis, mais c'est l'indécence, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un enfant qui se fait assassiner par la police française, et le premier, enfin, ça me déborde, quoi. Genre, un ou deux jours après, et tout d'un coup, là, les demandes, elles affluent. Alors, évidemment, à ma petite échelle, hein, mais tout de même, où là, il y a eu plus d'une dizaine de demandes, alors qu'il y en a eu quasiment zéro, enfin, une seule, pendant le mouvement social. Mais là, d'un coup, là, j'étais plus identifiable, quoi. D'un coup, on est vraiment sur... ouais, l'indigène de service, lettré, qui va nous donner son point de vue sur la banlieue, mais un point de vue qu'on peut comprendre, avec une langue. Voilà, avec une langue, elle va nous faire de la poésie, quoi. Mais en fait, mais ça va pas ou quoi? Enfin, la honte, quoi. Enfin, c'est genre hyper... enfin, c'est... waouh, quoi. C'est très violent, en fait, quoi. Ah, si tu veux nous sortir de la poésie... Mais il y a un petit qui est mort, en fait. Faut parler en quelle langue? Enfin, c'est grave, quoi. Mais ouais, rude. Ouais, je peux pas finir là-dessus, attends. Je peux pas finir sur rude. Non, mais en tout cas, c'est de toutes les manières une forme d'addiction. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, on y revient à l'écriture. Donc il y a vraiment ce truc où je crois que c'est le côté transcendantal de l'écriture. Il fait à la fin quand même vachement de bien. On a consigné des choses et on n'a plus besoin vraiment d'y penser ou plus de la même manière. Et ça, c'est assez cool. Ouais, les premiers sont techno. En fait, ils ont quelque chose de très transcendant, quoi. Moi, j'écris le dernier texte que j'ai écrit, je l'ai écrit en techno aussi, sur une mixtape d'un mec qui s'appelle Suburban Night. C'est un des pionniers de la techno à Détroit aussi. C'est des morceaux très courts qui s'enchaînent et tout. Enfin, c'est, bah, de toute façon, c'est comme un set, quoi. T'as une heure comme ça de bruits qui sont en fait extrêmement c'est pas du tout abstrait, quoi. C'est des bruits assez figuratifs, quoi. Il y a un truc très figuratif dans cette techno-là, t'entends des essaims, t'entends vraiment des machines, t'entends vraiment des trucs, des motifs très concrets, quoi. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, ça me stimule intellectuellement un truc de fou, quoi. Genre, où je vois, j'ai des images, j'ai des couleurs qui me viennent à l'esprit, des textures, des températures, vraiment tout le matériau pour la fiction, quoi. Et du coup, je me dédouble, quoi. Ça, c'est clair que j'ai vraiment le moi dans le son, et genre, et en même temps, je suis en train de poser des lignes, et en même temps, tatata, et bien évidemment qu'après, je vais repartir dans le silence. Tu peux mettre Suburban Night. C'est sur le CD qui s'appelle, le disque qui s'appelle Nocturbulous Behavior. Et tu peux mettre Black Moon Rising, par exemple. Okay. T'as retenu ou pas? T'as pas noté?
Non, mais
c'est enregistré. Ah ouais, je suis cool. Franchement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là.
Ok, tu veux partir?
I dropped the mic. Je vais partir maintenant.